voici le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des peines extrêmement lourdes au Maroc contre les meneurs de la contestation sociale du RIF, contestation liée à la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures. L'icône de ce mouvement, Nasser Zaïzafi, condamné à 20 ans de prison, c'est la fin d'un procès fleuve qui a duré 9 mois, va nous dire Stéphanie Wenger depuis Rabat.
Et puis en Méditerranée, le navire humanitaire Lifeline devrait pouvoir accoster à Malte. En Méditerranée, la France s'engage à accueillir plusieurs des réfugiés à bord. Emmanuel Macron s'y est engagé hier au Vatican.
La France qui accueille aussi une conférence humanitaire sur le Yémen aujourd'hui, mais aucune ONG n'a été invitée. Analyse à suivre de Louise Guibert.
Et puis, 14 personnes tuées et une centaine d'autres blessées en un an. Pour la première fois, l'inspection générale de la police nationale communique le nombre de victimes des interventions policières. Compte rendu à suivre de Clarence Rodriguez.
Il sera présenté ce matin en Conseil des ministres, mais le service national universel provoque déjà des critiques. Nous entendrons le député LR Philippe Gosselin. Enfin, comment mettre en scène la décision politique? Le thème du billet politique à 8h16 avec Frédéric Seyss. À 15h cet après-midi, Emmanuel Macron promulgue la loi ferroviaire devant les caméras. Au Maroc, c'est l'épilogue d'un procès fleuve de 9 mois, celui du mouvement de contestation sociale qui a agité la région du RIF fin 2016 et l'année dernière. 53 prévenus qui s'étaient mobilisés après la mort d'un jeune vendeur de poissons, Mohsin Fikri, originaire d'Al-Hoceima. Il avait été broyé par une benne à ordures alors qu'il tentait d'échapper à la police qui voulait détruire sa marchandise. Bonjour Stéphanie Wenger.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante au Maroc, vous êtes à Rabat. Les peines sont donc tombées pour ces rifins qui ont organisé des manifestations pour demander plus de justice sociale. Elles sont lourdes, jusqu'à 20 ans de prison pour les meneurs et notamment la figure de ce mouvement Nasser Zaïzafi.
Oui, avec 3 autres détenus, il écope des peines les plus lourdes pour complot contre la sûreté de l'État, mais les autres condamnations sont sévères aussi. En tout, le tribunal a prononcé plus de 250 années de prison contre une cinquantaine de personnes. Les faits reprochés aux accusés étaient graves. Si la plupart des manifestations du RIF en 2017 ont eu lieu dans le calme et portaient des revendications sociales, quelques-unes ont dégénéré, causant des centaines de blessés parmi les forces de l'ordre. Alors il faut noter que les avocats n'ont pas plaidé à l'issue du procès, les accusés avaient avant pris la décision, il y a plusieurs audiences, de ne plus intervenir pour protester contre la partialité de la justice et la faiblesse des éléments matériels.
Alors il est encore tôt pour savoir comment ce jugement est perçu dans le RIF et plus globalement dans le pays, mais les réseaux sociaux offrent déjà un panel de réactions.
Dans le RIF, lors des dernières manifestations de masse, il y a un peu plus d'un an, la libération des prisonniers et de Nasser Zaïzafi était en tête des revendications. Donc les condamnations très lourdes vont sûrement envenimer la situation. Il faut dire que sur place, les autorités ont misé fort sur la répression pour étouffer le mouvement. Des centaines de personnes ont été arrêtées et condamnées lors de procès moins médiatiques. Ailleurs au Maroc, sur les réseaux sociaux, la sévérité du verdict est déjà âprement commentée. Beaucoup dénoncent une justice aux ordres qui ne va qu'enflammer la crise ouverte il y a plus d'un an et demi. Il faut rappeler aussi que ce jugement intervient dans un contexte particulier. Depuis plus de 2 mois, le gouvernement n'a pas su ou voulu apporter de réponse à un mouvement de boycott sans précédent qui vise 3 marques emblématiques et proteste contre la cherté de la vie. Les demandes du Irak étaient sociales aussi. La région du RIF est enclavée à peu d'infrastructures. Le jugement très sévère ne risque pas d'arranger le climat de défiance qui existe entre les Marocains et les autorités aujourd'hui.
Merci Stéphanie Wenger pour vos précisions depuis Rabat, au Maroc. En Méditerranée, après 5 jours d'attente, le navire humanitaire de l'ONG allemande Lifeline devrait pouvoir accoster à Malte. 233 migrants à son bord qui ont été secourus au large des côtes libyennes. L'accueil des réfugiés sera de nouveau débattu en Conseil européen demain et vendredi à Bruxelles. Emmanuel Macron a aussi consacré une grande partie de son déplacement hier au Vatican à cette question. Le chef de l'État s'est entretenu 1 heure avec le pape François et a tenu une conférence de presse en fin de journée où la France s'est engagée donc à accueillir une partie des migrants du Lifeline.
Nous avons depuis plusieurs jours travaillé à une solution de coopération européenne avec plusieurs États membres et je veux ici saluer l'esprit de responsabilité du Premier ministre maltais, Joseph Muscat. Il a, avec quelques autres dont la France ferait partie, organiser une solidarité. Donc je peux ici vous confirmer que la France fera partie des quelques États membres qui prendront des personnes qui se trouvent aujourd'hui sur le Lifeline lorsqu'ils arriveront dans un port européen. Et l'OFPRA est d'ailleurs déjà en route vers Malte pour pouvoir procéder à cette mission. C'est au Premier ministre Muscat de confirmer les termes de l'opération et ses suites. Mais en tout cas, nous avons mis en pratique ce en quoi nous croyons, c'est-à-dire une politique de coopération active et de solidarité efficace. On parle de quelques dizaines d'individus par pays.
Des propos recueillis par Louise Baudet, le chef de l'État qui a aussi, semble-t-il, voulu apaiser le nouveau gouvernement populiste italien, allant même jusqu'à rejoindre certaines critiques de Rome sur les ONG en Méditerranée. Des ONG qui feraient, je cite, le jeu des passeurs, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. La France qui organise par ailleurs aujourd'hui à Paris une réunion d'experts sur la situation humanitaire au Yémen, réunion qui intervient en pleine bataille pour le contrôle du port stratégique d'Odaïda. La dernière offensive aérienne menée par la coalition saoudienne a fait au moins 55 morts civils. Mais la diplomatie française ne joue-t-elle pas justement un double jeu en soutenant discrètement la campagne militaire de l'Arabie saoudite, Louise Guibert?
Protection des civils, sécurité des personnels humanitaires et médicaux, libre accès humanitaire. Les représentants des États et des agences internationales les plus impliquées au Yémen s'attellent aujourd'hui à examiner la situation humanitaire et trouver des solutions à ce que l'ONU considère comme l'une des crises les plus graves du monde. Les pays de la coalition, que sont l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, rencontreront les représentants de l'Union Européenne, de la Ligue Arabe, du FMI ou encore de la Banque Mondiale ce mercredi à Paris. Mais étrangement, à cette conférence dite humanitaire, certains protagonistes de terrain manqueront à l'appel. Il s'agit des ONG. Ces dernières appellent à envisager des actions d'urgence et demandent au gouvernement français d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour convaincre ses alliés de minimiser l'impact des offensives pro-saoudiennes en cours sur les civils, notamment dans la ville d'Odaïda, qui abrite le plus grand port du pays, port par lequel transite la grande majorité de l'aide humanitaire internationale. Il est vrai que la France a un véritable rôle à jouer, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU d'abord, mais aussi en tant que fournisseur d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis. Selon le ministère des Affaires étrangères, seule une politique négociée et inclusive permettra de mettre un terme à la guerre et de soulager durablement la situation humanitaire que connaît le pays. Après 3 années de conflit, la crise yéménite a causé la mort de plus de 10 000 personnes, le déplacement de 2 millions d'autres, la malnutrition de 2 millions d'enfants et rendu près de la moitié des structures de santé totalement inopérantes.
Explication Louise Guibert. Le Yémen, justement, qui fait partie des 6 pays dont les ressortissants sont désormais interdits d'entrer aux États-Unis, interdiction permanente. La Cour suprême américaine a mis fin cette nuit à des mois de bataille judiciaire et a validé ce décret migratoire controversé du président américain Donald Trump, qui reste toutefois empêtré dans le scandale des familles migrantes séparées à la frontière mexicaine. Donald Trump qui a salué, je cite, « une fantastique victoire ».
8h08 sur France Culture, c'était une promesse emblématique du candidat à Macron, celle de créer un service national universel. Les grandes orientations de ce nouveau service civil obligatoire seront présentées ce matin au Conseil des ministres par Édouard Philippe.
Et les contours sont encore flous, mais le dispositif devrait durer 1 mois et s'effectuer autour de l'âge de 16 ans. Le Premier ministre devrait aussi proposer une concertation à l'automne prochain pour répondre aux inquiétudes des organisations lycéennes et étudiantes. Ce service d'1 mois obligatoire ne correspond pas à la promesse initiale et il déçoit déjà le député LR de la Manche, Philippe Gosselin.
On s'arrête complètement à mi-chemin de ce qui avait été présenté pendant la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, on était sur un grand service universel, service militaire, en tout cas citoyen. Voilà, ça concernait l'ensemble des classes d'âge, garçons, filles. On était sur des durées beaucoup plus longues et quelque chose de cadré. Maintenant, les faits sont têtus. Il n'y a plus de casernes aujourd'hui. Il y a des questions d'encadrement qui se posent et des questions de coûts. Donc, on essaie de faire un espèce de rétropédalage, d'habillage d'une mesure qui avait été plutôt séduisante pour nombre de nos concitoyens. Et on va consulter, alors je ne sais pas qui d'ailleurs, hein, parce qu'il n'est pas question de faire un référendum évidemment auprès des jeunes. On va consulter donc des organisations plus ou moins représentatives, la FIDEL pour les lycéens, l'UNEFID, peut-être d'autres, j'espère d'autres d'ailleurs, des associations de jeunesse et d'éducation populaire. La belle affaire, enfin bon, moi je trouve que ça fait pchit, et en réalité, on n'est pas au stade de remplir l'engagement d'une promesse présidentielle. Pour une part, c'est de la poudre aux yeux.
Des propos recueillis par Stéphane Robert. À Notre-Dame-des-Landes, le contrat de concession signé avec Vinci en 2010 sera résilié à cause de l'abandon du projet d'aéroport. L'État et Vinci vont maintenant pouvoir aborder l'épineux sujet de l'indemnisation financière. À la SNCF, c'est l'éclatement du front syndical. La CGT et Sudrail confirment leur volonté de poursuivre le mouvement de grève contre la réforme ferroviaire au-delà de demain soir. Les deux syndicats appellent à des arrêts de travail les 6 et 7 juillet prochains. Dans le même temps, la CFDT et l'UNSA suspendent leur mobilisation après la dernière séquence du mouvement qui commence donc aujourd'hui. Et puis, comment mettre en scène la décision politique? Le thème du billet politique de Frédéric Seyss à 8h16, à 15h cet après-midi. Emmanuel Macron promulguera en effet la loi ferroviaire devant les caméras. L'inspection générale de la police nationale a présenté hier son bilan d'activité pour 2017. La police des polices a été saisie plus de 1000 fois pour des enquêtes judiciaires. L'an passé, c'est un peu moins qu'en 2016, une année marquée par les manifestations contre la loi travail. Par ailleurs, pour la première fois, l'IGPN a publié le chiffre des personnes tuées ou blessées lors d'interventions policières. Clarence Rodriguez.
Marie-France Monéger-Guyomard, patronne de la police des polices, a en effet publié pour la première fois le chiffre de 14 personnes tuées et d'une centaine de blessés lors d'interventions policières. Elle explique que c'est surtout grâce à la mise en place d'un recensement depuis juillet 2017. Un recensement, précise-t-elle, qui n'est pas le recensement des bavures policières. La directrice de l'IGPN a également mis le doigt sur l'utilisation d'armes en nette augmentation, plus 54% pour l'usage des pistolets automatiques ou pistolets à impulsion électrique, davantage utilisés depuis la suppression de flashball il y a 3 ans. Marie-France Monéger-Guyomard nous explique dans quelle situation les policiers utilisent ces armes dissuasives.
Cette augmentation de 54% est quasiment due au problème de conducteurs qui refusent les contrôles. Dans la quasi-totalité des affaires, la légitime défense a été retenue pour les policiers. On sent une tendance effectivement à un durcissement des choses sur le terrain. Les conducteurs ont surtout envie d'échapper au contrôle de police. Là où avant ils s'arrêtaient, aujourd'hui ils ne veulent pas s'arrêter. On a d'ailleurs une augmentation sensible du nombre de policiers blessés sur ces interventions.
Dans son rapport d'activité annuel, l'IGPN présente par ailleurs une grande stabilité concernant le nombre de saisines judiciaires, 1085 contre 1121 en 2016, année marquée par les manifestations Loi Travail, entre autres. Quant à la plateforme de signalement à destination des particuliers, ce sont 3361 signalements qui ont été recensés, dont 2897 relevant bien de l'IGPN, soit une hausse de 3%.
Les précisions de Clarence Rodriguez. Au tribunal correctionnel de Paris, la justice a infligé la peine maximale de 10 ans de prison au fils d'une famille djihadiste du Loiret, partie en Syrie. Peine assortie d'une période de sûreté de moitié. Sami Retoun, 22 ans, le jeune prévenu avait appelé à d'autres attaques juste après celle de janvier 2015 à Paris. Son père, âgé de 58 ans, et son ancienne compagne de 26 ans ont également été condamnés pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Et puis une ombre a aussi plané sur ce procès, celle du fils aîné disparu en Syrie, un fils battu par son père avec qui il avait des rapports très difficiles. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
3 prévenus et pour la procureure, 3 versions aseptisées de la réalité. Un engagement réel et ancien pour Sami Retoun, le principal prévenu de cette affaire. Un départ en Syrie et des publications qui appellent au djihad. Un djihad que son père a vécu par procuration, estime-t-elle, dans les yeux de ses fils. À l'encontre de Farid Retoun, elle requiert 3 ans et demi de prison et surtout un mandat de dépôt à l'audience, autrement dit l'incarcération immédiate. Le tribunal ne la suivra pas sur ce point tout en prononçant une peine de prison ferme et l'obligation d'une prise en charge sanitaire et sociale. Peine ferme également, 2 ans de prison, cette fois conforme aux réquisitions pour la jeune femme qui avait rejoint Sami Retoun en Syrie. Elle n'ira pas non plus en prison tout de suite, mais sera convoquée devant le juge d'application des peines. Le tribunal a tenu compte de la gravité des faits, explique le président, mais aussi de ses efforts de réinsertion. En revanche, il n'a pas accédé à la demande de son avocat. Il prononce pour elle, comme pour Farid Retoun, l'inscription au Fidjet, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes mis en place l'an passé par le gouvernement.
Compte rendu signé Florence Turme. La météo toujours très estivale, ciel bleu et lumineux partout en France. Les températures ce matin, 22 à Lille et Paris, 23 à Strasbourg, 24 à Brest, 26 à Bordeaux et Lyon, jusqu'à 28 à Perpignan. Et cet après-midi, ça grimpera jusqu'à 30 degrés en Occitanie, Guillaume Erner.
Merci beaucoup pour l'Occitanie, Anne Fauquemberg.